Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue avec notre Sainte Mère l'Église dans cet article 9 du catéchisme de l'Église catholique qui porte sur cet élément du credo « Je crois à la Sainte Église catholique ». Et au 779, on lit que l'Église, on rappelle que l'Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et corps mystique du Christ. Deux éléments, un qui semble plutôt matériel et l'autre plutôt spirituel, qui semblent se combiner dans l'Église. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi peut comprendre quelque chose de ce lien entre l'Église visible et l'Église spirituelle? Est-ce qu'il peut être en mesure de dépasser le côté visible, société, association, pour saisir la dimension spirituelle de l'Église?
Ta question est très bonne, parce que c'est vrai que souvent, des organisations athées ou laïques agressives tente de ramener l'Église à une simple ONG, organisation non gouvernementale, dans laquelle il y aurait une sorte de philanthropie, mais pareil que toutes les autres associations philanthropiques, qu'on serait une parmi les associations qui allons aider les peuples qui ont un tremblement de terre, ou des famines, ou des difficultés, des différentes formes, je dirais, de catastrophes, et on serait une association parmi les autres qui agirait. Ce serait oublier totalement ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas une réalité purement visible, nous sommes une réalité qui donne le sens profond de notre communauté invisible avec Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, il montrait un corps qui était certainement accessible à ses concitoyens, à ses frères dans la religion juive, mais en même temps, on devinait à travers ses gestes et ses paroles qu'il est Dieu. Et donc ces deux dimensions, je dirais, permettaient de voir ce que le grand Pascal, Blaise Pascal, appelait les trois ordres. Quels sont ces trois ordres? Il y a l'ordre naturel de la physique, du monde visible. Il y a l'ordre invisible qui est toujours dans ce même monde, mais qui est spirituel. C'est l'âme, c'est le domaine de l'âme. C'est le domaine même des anges, qui sont des créatures spirituelles. Et puis, il y a la troisième dimension, qui est le surnaturel, qui est la grâce, qui est la participation à la vie divine, à la vie de Dieu. Et l'Église offre donc une mission par rapport à ces trois ordres qui sont hiérarchisés. C'est-à-dire, le premier, c'est l'ordre surnaturel, qui passe avant tout. Il ne faut pas perdre la grâce et il faut éviter les péchés mortels qui coupent de la grâce. Mais il y a un soin aussi pour les âmes, et le sacrement des malades, par exemple, s'occupe non seulement du soin des corps, mais même du soin des âmes. On l'oublie un peu trop, on donne souvent le sacrement des malades seulement aux malades physiques, mais il faut le donner aussi aux malades psychiques, car Jésus est intervenu pour tous, aussi bien les maladies physiques que les maladies psychiques. Et donc, il y a cet ordre qui est respecté, le spirituel qui passe avant le corporel, puisque le corps, comme dit le livre de la Sagesse au chapitre 9, alourdit l'âme. Nous avons besoin aussi de soutenir le corps. Le corps est un poids, et on le sent bien en vieillissant, que de plus en plus on est amené à sentir ce poids du corps, que ce n'est plus seulement quelque chose d'aussi facile qu'au moment de la jeunesse. Et bien, pour toutes ces réalités que nous avons, Dieu se penche vers nous. Tout ce que nous sommes, Dieu a voulu le vivre par l'incarnation du Christ. Et qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est cette continuation de de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, comme disait le grand Bossuet, déjà cité sur ses ondes, c'est Jésus répandu et communiqué. Et donc, l'Église a, comme notre Seigneur Jésus, cette double dimension spirituelle, surnaturelle et, d'autre part, visible, tangible, corporelle.
Est-ce comment on pourrait aider un athée bienveillant qui nous écouterait, par exemple, dans cette émission, à essayer de voir l'invisible, à essayer de se laisser toucher par cette dimension divine de l'Église? Est-ce qu'il y aurait des éléments visibles qui seraient un peu l'expression de cette invisibilité active dans l'Église?
Alors, traditionnellement, nous, c'est par la charité que nous l'exprimons, ah oui, et qui n'est pas une simple philanthropie, c'est-à-dire on paie de notre personne. Et beaucoup de saints sont allés au-devant des lépreux, ont même attrapé la lèpre, ont été au-devant des pestiférés, ont attrapé la maladie, en allant ainsi se pencher sur les personnes, c'est-à-dire nous ne nous contentons pas d'un geste un petit peu lointain où on écrira un chèque pour une association X ou Y, mais on ne passerait pas à l'acte. Et ce passage à l'acte est donc important, puisque nous payons de notre personne, sur le modèle de Jésus, qui est allé jusqu'au bout de son amour pour l'ensemble du genre humain, pour l'ensemble de l'humanité, et a commencé par ses disciples, hein, et qui l'a aimé jusqu'au bout, dit l'Écriture dans saint Jean. Il les aima jusqu'au bout. Et je crois que c'est cet amour, hein, qui permet de voir que le chrétien porte en lui une dimension qui n'est pas connaturelle, je dirais, à l'égoïsme, je dirais, qui normalement fait partie, hélas, de la dimension de la chute de l'homme suite au péché originel. Et donc, nous ne nous protégeons pas par mille égoïsmes, par mille, incapacités à aller vers les autres. Et il y a en nous une dimension universelle, c'est-à-dire nous considérons le prochain comme tout être, peut-être celui qui est proche de nous, proche de ce que nous sommes. C'est la très belle parabole du bon samaritain, où Jésus a rappelé que le samaritain a su se pencher vers l'homme blessé sans savoir qui il était, et qu'il a pris sur ses épaules, il l'a emmené avec lui à l'hôtellerie. Hein, c'est une parabole, bien sûr, mais nous essayons de le vivre dans le concret de la vie. Hein. Et saint Augustin disait, tu dois considérer tout homme comme ton prochain, même avant qu'il ne devienne chrétien. Tu ne sais pas ce qu'il est aux yeux de Dieu. Tu ignores ce que Dieu sait de lui déjà. Il peut arriver que celui dont tu te moques parce qu'il adore des pierres se convertisse à Dieu et l'adore avec davantage de piété que toi, le railleur. Ceux qui n'appartiennent pas encore à l'Église sont donc déjà nos proches d'une manière cachée. Il en est de manière cachée, qui sont très éloignés de nous. Puisque nous ne connaissons pas l'avenir, il nous faut considérer chaque personne comme notre prochain, poursuit saint Augustin, proche par cette condition commune de la mortalité qui nous a fait naître sur terre dans une situation semblable, proche également par l'espérance de l'héritage éternel. Nous ignorons quel sera dans l'avenir celui qui aujourd'hui n'est rien.
Ce qui nous est souvent présenté dans les médias sont des événements parfois dramatiques autour de l'Église, et les journalistes ont tendance à vouloir présenter ces choses-là qui émeuvent, qui font du bruit, mais il faudrait, au milieu de ça, comme pour beaucoup de choses dans notre vie, travailler à voir toutes les belles choses qui se passent dans l'Église. Réapprendre à voir au quotidien tout le travail que font les laïcs, les prêtres, pour essayer d'animer les quartiers, pour essayer d'accueillir les plus pauvres, pour créer du lien entre les gens. Et tout ça, ça n'intéresse pas les journalistes, parce que ça ne fait pas de bruit. Donc on a un travail à faire, à réapprendre à voir les petites choses qui font beaucoup de bien, mais qui font pas de bruit.
Effectivement, à chaque fois qu'il y a une béatification, il y a un miracle qui est annoncé par l'Église, à chaque fois qu'il y a une canonisation, un deuxième miracle, et cela est l'objet d'enquêtes scientifiques, et ces proclamations ne sont pas faites sans quelque chose d'extrêmement ferme et sérieux. Malheureusement, il faut vraiment aller chercher des informations lointaines par rapport à la vie de tous les jours pour les trouver. Et je dirais aux auditeurs, cherchez à vous informer, cherchez à trouver le lieu où vous retrouverez la possibilité d'avoir ces bonnes nouvelles. Et en attendant, ben, on peut toujours essayer de s'améliorer soi-même. Je me souviendrai un jour, Mère Teresa de Calcutta, qu'il y avait un journaliste qui arrivait, qui disait toutes ces difficulté par rapport à l'Église présente et qui lui disait, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et Mère Teresa avait répondu, ben, commencez par vous changer, vous et moi-même. Hein? Voilà. Saint Jean-Paul Ier, bienheureux Jean-Paul Ier, disait, essayons d'améliorer l'Église en devenant meilleurs nous-mêmes. Chacun de nous et toute l'Église pourrait réciter la prière que j'ai l'habitude de réciter. Seigneur, prends-moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes manquements, mais fais-moi devenir comme tu désires que je sois. C'est pas seulement de dire ben, on est avec des défauts, on est tous de la même pâte, pécheresse, mais en même temps, fais-moi devenir comme tu désires que je sois. Hein? Donc il y a vraiment un désir de transformation, de conversion. Alors on accepte les pécheurs dans l'Église, c'est clair, mais on leur propose un cheminement vers le salut, un cheminement de transformation, de sanctification, de purification. Et c'est cet état-là qui est l'Église, visible.
En tout cas, le catéchisme de l'Église catholique n'a aucun doute sur ce sujet. Au numéro 780, il est dit que l'Église est le signe et l'instrument de la communion de Dieu et des hommes.
Très belle réponse.
À bientôt,
À
frère Gore.
bientôt.